Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le conseiller général, ou bonsoir Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous...
Bruno Le Maire sera très bien.
Ce sera très bien pour ce soir, puisqu'il s'agit quand même de parler de littérature. Bien que cet ouvrage, qui est un ouvrage profondément littéraire et que j'ai beaucoup aimé, je l'ai écrit d'ailleurs dans Sud-Ouest Dimanche, j'espère que vous avez fait passer l'article, est un ouvrage dont la politique n'est pas tout à fait absente. Si on a le temps, on pourra peut-être en dire un mot. Je dis si on a le temps, car eh bien, vous êtes un écrivain très demandé. Vous êtes à Bordeaux, vous nous faites le plaisir de rencontrer le public de chez Mola, mais vous devez participer ce soir à une émission de télévision. Et donc, il faut reprendre le train assez vite. Donc, nous allons aller assez vite. Je ne sais pas si Carlos Kleiber dirigeait comme Karajan, je ne crois pas, dans cette espèce de hâte et de précipitation. Mais enfin, il avait sa façon à lui de diriger. On va en parler. Dites-nous, Bruno Le Maire, ce n'est pas votre premier livre. Et il y a un livre notamment qui avait été particulièrement bien accueilli, et qui était « Des hommes d'État », je crois, n'est-ce pas, où vous évoquiez évidemment tout ce que vous a apporté, la fréquentation du milieu politique, le travail que vous y avez fait, et notamment auprès de quelqu'un que j'ai eu le plaisir d'interviewer au moins trois fois ici, qui est Dominique de Villepin. Je pense que ce livre est dans la suite du reste, mais quand même très différent. Et puis, il porte l'étiquette roman. Alors, étiquette roman, le titre, c'est Musique absolue. Et le sous-titre, c'est Une répétition avec Carlos Kleiber. Je voudrais d'ailleurs, si on a le temps, là encore, qu'on revienne sur le terme répétition qui est essentiel dans cet ouvrage. Carlos Kleiber, c'est pas le narrateur, est un journaliste. C'est pas un ministre, c'est pas un député, c'est un journaliste. Et il se rend à une réunion politique qu'il va rater, d'ailleurs. Il pleut énormément sur la route. Et là, il est saisi d'admiration par ce qu'il entend à la radio. Et ce qu'il entend, c'est Carlos Kleiber qui dirige la 4e symphonie de Beethoven. La 7e symphonie de Beethoven. Est-ce que c'est ainsi que vous avez fait la connaissance, si je puis dire, de ce chef, qui est un chef à la fois prestigieux et en même temps pas assez connu?
Alors oui, c'est comme ça. D'abord, je veux dire bonjour à tous. Vous priez effectivement de m'excuser pour mon départ juste avant 19h. Je fais, pour être très clair, mot croisé ce soir sur France 2. Et comme France 2 n'a pas d'équipe télévisée sur Bordeaux disponible, il faut que je sois sur le plateau. Donc ça m'oblige à repartir de Bordeaux. Je crois que je n'ai pas besoin de préciser mon attachement à cette ville. J'ai même de la famille dans la salle. Toute ma belle famille vient du Gers. Ma mère vient du Pays Basque. Donc au croisement des deux, je suis très souvent à Bordeaux et j'y suis avec toujours beaucoup de plaisir. Alors pour en revenir à Kleiber, oui, c'est comme ça que je l'ai découvert. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'entendre diriger Carlos Kleiber. Mais une fois, j'étais dans ma voiture et j'ai effectivement entendu un enregistrement de la 7e de Beethoven comme je ne l'avais jamais entendu. Et j'ai attendu la fin de l'enregistrement pour savoir qui était le chef qui dirigeait, quel était l'orchestre. Et c'était effectivement Carlos Kleiber qui dirigeait l'orchestre symphonique de Munich dans la 7e de Beethoven. Or, Carlos Kleiber m'était complètement inconnu. Je suis un grand amateur de musique classique, j'en ai beaucoup fait, j'en écoute très régulièrement, mais je ne connaissais pas Carlos Kleiber, qui était éclipsé par d'autres grands chefs. Vous avez cité Karajan très justement, mais Carlos Kleiber, lui, est moins connu. Or, ses interprétations donnent une image de la musique, une compréhension de la musique, que ce soit celle de Beethoven, de Brahms, de Weber, comme quasiment aucun autre chef, à mon sens, ne parvient à le faire. Pour une raison qui n'est pas difficile à comprendre, c'est qu'il trouve un équilibre parfait entre une très grande rigueur germanique, qu'il a héritée de son père, Erich Kleiber, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et en même temps, une éducation en Argentine, puisqu'il a été élevé quand il était petit en Argentine, qui fait qu'il a une sensibilité au son, une sensualité que n'ont pas les autres chefs allemands. Et c'est un homme, Klaus Kleiber, qui est profondément divisé. Son nom, d'ailleurs, quand vous le regardez, le montre très clairement. Il s'appelle Carlos, il a un prénom de type espagnol, et il a un nom, Kleiber, qui sonne évidemment très autrichien ou allemand. Et cette division du personnage entre un aspect plus rigide, plus strict, plus technique, et un aspect plus souple, plus sensuel, c'est ce qui fait la force de l'interprétation de Kleiber. C'est ce qui fait que quand vous l'entendez diriger la sixième, la pastorale de Beethoven, que vous connaissez tous par cœur, qui est une espèce de rengaine, vous avez l'impression de l'entendre pour la première fois.
Est-ce qu'on peut, puisque vous avez évoqué le personnage du père, on peut parler tout de suite du père, Erich Kleiber, qui évidemment tient un rôle important dans sa vie, qui commence par tenter de le détourner de la musique, et qui va peser ensuite. C'est un chef extraordinairement admiré et célèbre. Et évidemment, la notoriété paternelle va peser. D'une manière négative, d'une manière positive, c'est à vous de le dire, sur la carrière et la destinée du fils. D'abord, pourquoi quitte-t-il la MMS? Il s'appelle Carlos, il s'appelle Karl. C'est en Argentine qui va prendre, donc on va lui donner le prénom de Carlos. Pourquoi son père, Erich Kleiber, a-t-il, à la différence de Fritz Wrangler, ou même de Karajan d'ailleurs, pourquoi a-t-il quitté l'Allemagne?
Alors c'est évidemment un des aspects importants du livre, parce que je m'intéresse depuis très longtemps à la culture allemande, je connais bien ce pays, et c'est aussi une façon d'interroger cette culture allemande et l'attitude de certains grands Allemands par rapport à cette période nazie. Erich Kleiber, lui, n'avait aucune raison de partir de Berlin quand il en est parti en 1935. Il n'est pas juif, il n'est pas communiste, il n'a pas d'engagement politique, il est respecté. C'est une vraie figure de la musique classique allemande. Il occupe vraiment une place de choix puisqu'il est directeur du Théâtre national de Berlin. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Simplement, il est féru de compositeurs contemporains. Il est très ami avec Alban Berg et il veut jouer du Alban Berg. Et les nazis lui disent, voilà, vous faites un choix. Soit vous arrêtez de diriger Alban Berg, qui est de la mesure musique décadente, soit vous quittez le Théâtre national de Berlin. Erich Kleiber, qui n'écoute que son courage, a cette phrase magnifique, il dit « Une Allemagne dans laquelle on ne peut pas jouer du Berg est une Allemagne dans laquelle je n'ai plus ma place ». Il démissionne du Théâtre national de Berlin et il part en Argentine avec son fils, Karl Kleiber, qui prend là-bas le prénom de Carlos et qui commence cette éducation à cheval entre l'Allemagne et l'Amérique du Sud. Mais il faut bien voir ce que représente Erich Kleiber à l'époque. À l'époque, Erich Kleiber, c'est l'équivalent des très grands géants artistiques tels Goethe ou de grands écrivains. La musique occupant une place en Allemagne qu'elle n'occupe pas en France, on a un peu du mal à se représenter ce que cela signifie. Mais c'est vraiment une figure respectée, très importante. Et quand Carlos Kleiber, à son tour, veut devenir chef d'orchestre, alors qu'il avait commencé des études de chimie, effectivement, son père fait tout pour l'en dissuader, en lui expliquant que devenir chef d'orchestre, c'est compliqué, c'est difficile. Et il lui écrit cette très belle lettre que je cite dans le livre, où il lui dit « Si ça n'est pas absolument nécessaire pour toi et aussi nécessaire que de manger du pain chaque jour, il vaut mieux que tu fasses autre chose que chef d'orchestre. » Et malgré tout, Carlos Kleiber persiste et arrive à devenir ce grand chef. Moi, je veux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ces parcours-là, parce que ça interroge évidemment la relation du père au fils, la relation entre la célébrité et l'anonymat. Et pour le fils d'un chef comme Erich Kleiber, devenir à son tour un grand chef, c'est une véritable prouesse. C'est comme si on imaginait le fils de Rafael Nadal qui voulait aujourd'hui faire du tennis. Je pense que Rafael Nadal lui dirait tout de suite « Écoute, abandonne, j'ai été premier, c'est pas la peine, tu feras jamais aussi bien ». Carlos Kleiber a fait ça dans la musique avec son père Erich Kleiber.
Le caractère de Carlos Kleiber est un caractère infiniment complexe. C'est un personnage très singulier, c'est pour ça que c'est un personnage romanesque. Et c'est pour ça que vous essayez de démêler, autant que faire se peut d'ailleurs, toutes les contradictions et toutes les complexités de ce personnage. Mais justement, parmi ces complexités, il y a la relation avec ce père ou avec l'ombre paternelle ensuite. Et il y a quelque chose qui est très me semble-t-il, éloquent, c'est qu'il refuse de diriger un certain nombre d'œuvres, comme les Noces de Figaro, où son père avait, d'une certaine façon, brillé. Il ne veut pas marcher sur les brisées paternelles, ce qui est peut-être regrettable, parce qu'on n'a pas d'opéra de Mozart dirigé par Carlos.
Non, vous avez raison, c'est un regret d'ailleurs, parce que la discographie de Carlos Kleiber, du coup, est très réduite. Tous les enregistrements sont exceptionnels, mais il y en a malheureusement très peu. D'abord parce qu'il a très peu enregistré pour le disque, qu'il a toujours refusé les labels. C'est vraiment l'anti-Karajan. Lorsqu'on lui a proposé de faire partie du label Deutsche Grammophon, qui était ce qu'il y avait de plus prestigieux, il a refusé. Lorsqu'on lui a proposé d'être chef à vie de la Philharmonie de Berlin, il a refusé. Lorsqu'on lui a proposé de diriger l'orchestre de Stuttgart à vie, il a refusé. Tout ce que Karajan avait accepté, les médias, la direction de la Philharmonie de Berlin, un label permanent chez Deutsche Grammophon, lui, il l'a refusé. Parce qu'il voulait rester en arrière de la musique. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième, effectivement, c'est qu'il estimait, comme vous le dites très bien, que beaucoup d'œuvres avaient déjà été enregistrées par son père, Erich Kleiber, et que ça ne valait pas la peine de les réenregistrer parce qu'il ferait moins bien. Et il se trouve, je vous raconte une anecdote un peu personnelle, c'est un peu un regret, c'est que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai beaucoup de gens qui ont essayé de faire venir Carlos Kleiber en France, des directeurs d'orchestre, des directeurs d'opéra, qui sont venus me voir avec des lettres de Carlos Kleiber. Et à chaque fois, ces directeurs avaient écrit à Carlos Kleiber, qui était devenu une forme de mythe pour le monde musical, en lui disant « Mais venez diriger aux journées romantiques du Bourget, venez diriger au Théâtre du Châtelet à Paris, venez diriger dans je ne sais trop quel autre théâtre en province, et on est prêt à vous faire un pont d'or, venez diriger la 9e de Beethoven, venez diriger Così fan tutte, venez diriger Wagner. » Et à chaque fois, il fait la même réponse dans ses lettres. À chaque fois, il répond « Si vous voulez entendre la 9e de Beethoven, écoutez l'enregistrement de mon père, je n'ai pas une note à ajouter. » Et il ne l'a jamais enregistré. Et à chaque fois qu'un régisseur lui demande de venir pour telle ou telle œuvre, il répond toujours « Cette œuvre a déjà été enregistrée par mon père, je n'ai pas une note à ajouter. » Donc c'est un homme qui, de plus en plus au fil de sa vie, s'est senti écrasé par le poids de son héritage paternel et par le poids de la musique.
Alors c'est ça que je voudrais que vous développiez un peu, parce que en effet, on est frappé, quand on examine cette carrière, par tout ce qu'il refuse, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas ? Il passe beaucoup plus de temps à refuser qu'à accepter des propositions, au point de passer, en effet, pour un capricieux, pour une espèce de diva, bon, puis qui aime se faire payer très cher, et puis qui se décommande au dernier moment. Tout ce comportement, vous dites, il se tient en arrière de la musique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça ?
Alors d'abord, ce que vous dites est effectivement très vrai. Il avait un comportement parfois un peu excentrique, et à tel point que certains autres chefs se moquaient de lui, parce que du coup, les régisseurs, notamment à Salzbourg ou à Bayreuth, étaient prêts à lui payer des ponts d'or pour qu'ils viennent diriger, ne serait-ce que quelques instants, leur orchestre. Et Karajan avait fini par dire, devant tous les refus de Carlos Kleiber, dans le fond, Carlos Kleiber ne dirige que lorsque son frigo est vide. Ce qui voulait dire que ça s'intéressait qu'au cachet. Et d'ailleurs, on lui a beaucoup reproché, je le raconte dans le livre, d'avoir accepté un jour un concert à Ingolstadt, qui est la ville de naissance de la marque automobile Audi, parce qu'il avait besoin d'une voiture. Le président d'Audi a appelé Carlos Kleiber, lui a dit « Voilà, si vous venez diriger telle œuvre pendant 30 minutes, on vous offre la dernière Audi la plus puissante avec toutes les options que vous voulez. » Il dit « Ça tombe bien, j'ai besoin d'une voiture. » Et est allé diriger Ingolstadt.
Sa femme n'était pas contente.
Il a expliqué qu'il n'avait pas besoin de cela. Mais ce que je crois, c'est que derrière l'excentricité, il y a surtout une vraie angoisse de ne pas être à la hauteur de la musique. C'est beaucoup plus ça que la volonté de faire des caprices ou de refuser de figurer sur scène. Il y a ce sentiment qu'on ne sera jamais à la hauteur de la musique que l'on joue. Et c'est aussi ça, moi, qui m'intéresse chez le personnage. C'est une façon de rendre justice à des gens qui abordent la musique avec un peu plus d'humilité ou qui abordent leur art avec un peu plus d'humilité que les autres. Karajan, la figure de Karajan, pour revenir à lui, a effacé quasiment les interprétations de Karajan. On parle du personnage, on parle de la figure, on oublie les interprétations. Kleiber, lui, avait une conception très différente de l'interprète, qui est là pour servir de médiateur entre le public et la musique, et qui doit s'effacer devant la musique. Et au fil du temps, et je l'ai vu encore plus dans ses lettres, peut-être qu'un jour j'arriverai à publier une partie de la correspondance qui m'a été transmise, parce qu'elle est passionnante. Et on voit dans les lettres exceptionnellement bien écrites qu'il a rédigées, très souvent en français, parce qu'il parlait le français aussi bien que vous et moi, que dans le fond, il est dominé par le sentiment que la musique le dépasse totalement, qu'il ne sera jamais à la hauteur, que ses œuvres sont beaucoup trop belles pour être jouées de la façon dont il pourrait les jouer, et que finalement, il vaut mieux laisser tomber que de jouer les choses de manière qui ne soit pas à la hauteur de ses propres exigences. Et de ce point de vue, il ressemble beaucoup à un autre artiste que moi j'aime énormément, qui est le pianiste Sviatoslav Richter, qui avait exactement la même conception de l'interprète. L'interprète est là pour servir de médiateur entre le public et la musique. Il n'est pas là pour se mettre en avant. Et Richter, qui était devenu une star du piano mondial à la fin de sa vie, qui était lui aussi réclamé par tous les théâtres et par toutes les salles de concert, il avait une seule exigence. Une seule. Il voulait jouer dans le noir complet, avec uniquement un spot pour éclairer la partition. Là, pour le coup, je l'ai vu jouer à plusieurs reprises, j'ai fait des centaines de kilomètres pour l'entendre jouer. On éteignait tout le théâtre, c'était le noir complet, et il y avait uniquement le spot sur la partition. Et c'était à chaque fois des batailles infinies entre le directeur du théâtre et Sviatoslav Richter, parce que le directeur du théâtre disait « Mais monsieur Richter, j'ai un public qui est venu vous entendre jouer, mais vous voir jouer aussi ». Des gens qui ont réservé la partie gauche de la salle exprès pour voir vos mains sur le clavier. Et Richter, à chaque fois, répondait la même chose. Écoutez, ils viennent au concert, ils ne viennent pas au cirque.
Cet aspect du personnage qui est tellement attachant, il faut bien dire, c'est-à-dire tout ce côté vulnérable dans quelqu'un qui est un mythe, qui est une espèce de star, qui pourrait en effet avoir un comportement capricieux, un comportement de diva, mais qui est un inquiet, un angoissé, quelqu'un qui se trouve toujours indigne de ce que la musique attend de lui, n'est-ce pas ? Cette exigence vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'exercice de son métier, évidemment, cette exigence, il va l'imposer aux musiciens. Et alors, ça s'appelle une répétition avec Carlos Kleiber. Il y a plusieurs répétitions qui sont évoquées dans le livre, mais ces répétitions ont été... Alors, je ne sais pas, on est tellement pressé. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un roman qui a donc un personnage qui c'est le témoin, n'est-ce pas, et qui joue un rôle essentiel. Et moi, je trouve qu'il est très intéressant, ce personnage. On s'y attache. Il est assez bougon. Ce journaliste, il lui parle avec beaucoup de désinvolture et un peu de mépris, et notamment parce qu'il est français. Et il ne pense pas du bien des Français. Mais ce personnage de violoniste qui a longuement travaillé avec Kleiber, qui éprouve pour lui une admiration éperdue, se fait en effet le témoin d'un certain nombre de choses, mais notamment de ce que ces répétitions avaient d'épuisant, de harassant pour les musiciens, n'est-ce pas ? Tant le chef n'était jamais content, tant il exigeait d'eux, tant il fallait indéfiniment reprendre et reprendre. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui est très propre à Kleiber. C'est un grand maniaque, quoi, en ce qui concerne la perfection et la qualité.
Alors d'abord, c'est un homme vulnérable. C'est un terme que vous employez très juste. Moi, je le reprends très volontiers. C'est un homme qui se sent agressé en permanence par le monde extérieur, qui... se sent agressé par la presse, agressé par le monde moderne.
Il n'a jamais donné d'entretien.
Il n'a jamais donné un seul interview de sa vie. Et je trouve que, évidemment, pour l'homme public que je suis, ça dit forcément quelque chose, parce que les sollicitations sont nombreuses, qu'on parle parfois à tort et à travers, et qu'un homme qui préfère le silence à la parole est par définition quelqu'un qui mérite le respect, à mon sens. C'est la preuve qu'il y en a peut-être beaucoup plus à dire que tous ceux qui se répondent à longueur de journée dans les médias. La seule chose, c'est que cette vulnérabilité ne l'empêche pas d'être effectivement extraordinairement exigeant dans ses répétitions. Et pour tous ceux qui ont fait de la musique dans cette salle, j'imagine qu'il y en a beaucoup, toute la difficulté de la musique, c'est de passer du texte à la partition, qui est un texte strict qui s'impose à vous. Il n'y a rien de plus abstrait qu'un texte de partition. C'est du noir sur du blanc, sans aucun sens, il n'y a pas de mots, à une interprétation qui tienne à peu près la route. C'est extrêmement difficile. Tous ceux qui ont fait du piano, qui ont fait de l'orchestre, qui ont joué un instrument, savent que entre ce qui est visible sur la partition et ce qu'on arrive à sortir comme son, comme interprétation, il y a un gouffre béant. Très souvent, c'est raté. Le plus souvent, ce qu'on fait, c'est raté. On n'arrive pas à exprimer tout ce qu'il y a dans la partition. Et Kleiber a parfaitement conscience de ce gouffre qui existe entre ce que recèle comme trésor une partition et ce que le musicien va arriver à produire. Et il le dit parfaitement. Il dit, voilà, dans cette partition, et je suis allé à la Philharmonie de Berlin voir les annotations de Kleiber, il voit des choses absolument exceptionnelles, mais dès qu'on arrive devant l'orchestre, il faut arriver à les retraduire dans la réalité musicale d'une pièce, et là, ça devient quasiment impossible. Donc il essaye tout, il déplace même les instruments, il dit au flûtiste de se mettre un peu plus loin, ou au bois de se rapprocher, au violoniste de se reculer de 50 cm, pour essayer d'entendre la disposition musicale parfaite qui lui permettra d'entendre ce qu'il voit dans la partition. Et ça, c'est un exercice qui, par définition, est toujours inachevé, est toujours insatisfaisant. Et du coup, les répétitions avec lui n'en finissent jamais, parce qu'entre ce qu'il voit dans le texte et ce qu'il entend lorsque l'orchestre commence, il y a toujours une insatisfaction permanente. Et de ce point de vue, pour moi, c'est vraiment l'allégorie et de ce que fait un artiste et de ce qu'est une vie d'homme ou de femme. C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait. Il y a toujours un décalage entre ce qu'on voudrait obtenir et ce qu'on obtient finalement. La dernière chose sur cette répétition, c'est que le terme allemand de la répétition, c'est dit « probe ». C'est le titre que je voulais donner à l'ouvrage, avant qu'Antoine Gallimard me dise « Écoute, Bruno, c'est très gentil, mais dit probeux, on ne va pas vendre un seul exemplaire. » Donc on va essayer de mettre un titre en français. Mais pourquoi est-ce que je tenais à ce titre dit probeux? C'est qu'en allemand, la répétition musicale, donc ça se dit probeux, et le premier sens, ce n'est pas répéter 5 fois, 10 fois la même mesure. Le premier sens, c'est essayer. C'est tenter quelque chose. Et Klaus Kleiber, les répétitions, pour lui, c'est exactement ça. On va tenter quelque chose. On va essayer de faire entendre un peu plus le hautbois, un peu plus les violons. On va essayer, dans le début de la 8e de Schubert, la symphonie inachevée, de commencer par du silence. Il veut que les violonistes commencent, dans ces premières mesures de la 8e de Schubert, qui sont pianissimo, ce qui est indiqué sur la partition, il veut qu'on n'entende rien. Et son idée, c'est que la musique doit être suggérée, monter progressivement, mais qu'on doit commencer par le silence. Alors évidemment, c'est compliqué à faire comprendre aux musiciens, de leur dire, voilà, vous jouez, mais on ne doit pas vous entendre. C'est à peu près ce qu'il recherche. Il avait aussi une façon de diriger tout à fait extraordinaire, où à un moment donné, la musique devait marcher tellement bien toute seule qu'il n'intervient plus. On le voit d'ailleurs très bien dans les DVD dans lesquels il dirige. Il dirige avec beaucoup de précision, en marquant à chaque fois bien les ruptures, les démarrages. Puis à un moment donné, il ne dirige plus et il laisse les musiciens démarrer tout seuls. Et un jour, il y a un orchestre qui vient le voir et qui dit « Voilà, c'est quand même compliqué de démarrer tout seul, on a besoin de votre levée. » Levée, vous savez, c'est le signal de la baguette pour dire que ça commence. Et il répond cette phrase merveilleuse, il dit « Vous savez, la foudre n'a pas besoin de lever. »
Alors justement, pour ce qui concerne ce cas de tellement original, hein, et peut-être de génial, il faudra qu'on évoque la question du génie de Carlos Kleiber. J'ai lu beaucoup, votre livre m'a passionné, alors je me suis précipité sur Internet, qui est désormais une ressource inépuisable. J'ai regardé énormément d'enregistrements, on le voit diriger, j'ai lu des articles, et au moment de sa mort, la presse est un peu divisée, et il y a des articles qui disent « c'était pas du tout un génie, c'est un génie pour les snobs ». Pardon, cher monsieur, pour les snobs, mais bon, on reviendra peut-être à ça si on a le temps. Je voudrais vous... Il y a quelque chose qui m'a surpris dans le livre, parce que j'ai trouvé que c'était contradictoire, mais c'est une contradiction que vous allez lever tout de suite, n'est-ce pas? Quand le journaliste entend dans la voiture la 7e symphonie donc, hein, de Beethoven, il pense ceci, on aurait dit que le chef dirigeait avec une hache au bout du bras. Il cognait dans la musique, levait son bras, abattait son bras, cognait encore, etc. Bon. Et puis, quand vous nous montrez Kleiber, ou plus exactement, quand le témoin, le violoniste, nous montre Kleiber en répétition, Kleiber ne cesse de demander la légèreté, plus léger, beaucoup plus léger. Il utilisait toujours des métaphores pour essayer de se faire comprendre. Imaginez que passe devant vous une femme avec de longues jambes, une jolie femme avec de longues jambes et des talons très hauts. Bon. Page 35, c'est une autre répétition. Plus léger, une caresse, vous effleurez le poil de la peau. Ensuite seulement, vous touchez la peau. Alors, comment peut-on diriger à la hache et être perpétuellement en quête de la légèreté, de l'effleurement, n'est-ce pas, et comparer ce qu'on demande au mouvement d'une jolie femme qui marche avec grâce.
Alors, c'est une excellente question, mais je pense justement, ça peut répondre aussi à votre première question, je pense que c'est le propre du génie. Quand vous regardez effectivement le final de la 7e, il arrive vraiment à recréer ce qu'il y a de puissant chez Beethoven, cette capacité à vous emporter avec une musique qui ne vous laisse pas tranquille, qui a quelque chose de totalement haletant. Et il le fait avec une force, une puissance absolument invraisemblable. Même chose dans la 6e, dans la pastorale, quand il y a l'orage qui éclate. C'est ce que je dis dans le livre, mais je vous recommande cette expérience. Pour tous ceux qui connaissent la 6e dans cette salle, c'est-à-dire tout le monde, vous mettez l'enregistrement de Carlos Kleiber avec l'Orchestre symphonique de Munich, si vous le trouvez encore, parce que depuis la sortie du livre, il est un peu épuisé, ça tombe bien, ça je fais vendre des disques. Et vous écoutez cet enregistrement, vous mettez avec suffisamment de puissance, et écoutez le passage sur la tempête. Je vous défie de ne pas être scotché à votre fauteuil, tellement c'est puissant, tellement c'est violent. Et en même temps, comme vous le dites, c'est quelqu'un qui est capable d'une douceur, d'une légèreté dans certains mouvements absolument extraordinaires. Sa répétition de la 4e de Beethoven est quelque chose d'absolument formidable. Dans le 2e mouvement, qui commence par deux sons qui font pas pam, il dit voilà, c'est une symphonie qui a été dédicacée à une femme qui aimait beaucoup Beethoven, qui s'appelle Thérèse. Et quand vous jouez les deux premières notes, pas pam, on doit entendre Thérèse, Thérèse. Et comme il reproche à ses violonistes de ne pas être assez léger dans ses deux premières notes, Thérèse, il leur dit, mais Thérèse, sans le E à la fin. Soyez plus léger, Thérèse, sans le E à la fin. Donc c'est ça la force de Kleiber. C'est vrai que les critiques, vous le dites très justement, à sa mort, ont été parfois un peu ambiguës. Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il est unanimement considéré, ou presque, comme probablement l'un des plus grands du XXe siècle. Il sort un peu de son anonymat, heureusement. Mais je pense que le propre du génie, c'est d'arriver à mettre en relation des choses qui n'ont absolument rien à voir et qui sont totalement contradictoires. C'est être capable de faire des pianissimos tellement légers qu'on n'entend même pas le début de la symphonie, et en même temps d'être capable d'une puissance absolument phénoménale dans certains enregistrements. C'est être capable de faire des rapprochements totalement incongrus, mais en même temps qui font tilt dans la tête. Quand il dit, pendant la répétition du Freischütz de Weber, qui est une histoire, vous savez, de balles magiques fabriquées par des génies et des fantômes, commence, c'est... Pour un orchestre allemand, c'est le Pontosan de la musique classique allemande. C'est l'équivalent du Boléro de Ravel pour les Français, on va dire. Et donc, ils répètent leurs trucs comme des orchestres bien rodés. Ils les coupent tout de suite et ils leur disent « Mais attendez, vous n'y êtes pas du tout. Cette introduction du Freischütz de Weber, c'est une histoire de fantômes. Donc, je veux entendre des fantômes dans votre musique. » Et immédiatement, on voit bien ce que ça veut dire, mettre des fantômes dans la musique. C'est mettre quelque chose de plus mystérieux, quelque chose de plus trouble. Alors, les musiciens reprennent. Il commence à diriger et les musiciens se perdent un peu dans le côté fantomatique de la musique. Donc il les coupe tout de suite et il dit « Mais attendez, c'est des fantômes, mais ça reste des fantômes totalement mathématiques. »
Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que le personnage du violoniste, qui est fouillé quand même, qui est un personnage romanesque, et qui s'appelle... comme Marlon Court, qui s'appelle Nikolaus, est homosexuel. Et d'ailleurs, il évoque les difficultés qu'il y avait à être homosexuel à la fin des années 40, au fond de l'Autriche, dans la campagne autrichienne, etc. Et donc, évidemment, il est éperdu d'admiration devant le talent, le génie de Kleiber, mais aussi devant sa beauté physique. Alors, il était très beau. Nicolaus, le compare jeune, et on voit des photos de lui jeune, n'est-ce pas ? Il y a une photo, il relève ses cheveux, le compare à Marlon Brando, il est magnifique, et il va vieillir, mais il va conserver cette allure extraordinaire, cette beauté extraordinaire, enfin, la beauté d'un homme âgé. Mais, et alors j'ai fait une expérience qui m'a quand même intéressé. Vous évoquez juste une fois le fait qu'il a dirigé Carmen. Et on peut voir l'intégralité de Carmen dirigée par Carlos Kleiber sur Internet. Et, alors, je ne sais pas où est-ce que ça se passe. La chanteuse n'est pas bonne du tout. Et il y a Placido Domingo qui fait Don José pour la première fois. Il est tout jeune. C'est peut-être Placido Domingo, je crois, vous dites, qui lui a demandé. Et la mise en scène est de Zeffirelli. C'est du Zeffirelli chichiteux, autant qu'il peut l'être parfois, mais c'est vraiment le mauvais élève de Visconti. Mais il l'a mis en scène et il filme Zeffirelli. Et alors, c'est extravagant parce que quand Carmen est en train de chanter, quand Don José est en train de chanter, comment s'appelle l'oie blanche là, quand Michaela est en train de chanter, il peut pas s'en empêcher, il quitte sa caméra, quitte la cantatrice ou Placido Domingo pour se fixer sur le chef, sur Carlos Kleiber. Visiblement, il est lui aussi absolument fasciné, n'est-ce pas, et par la beauté et par la direction, qui est une direction extrêmement élégante et retenue.
Alors c'est un aspect, je suis content que vous abordiez cet aspect-là. D'ailleurs, je manque de temps, mais je vous renvoie à l'article de Sud-Ouest Dimanche que j'ai lu et qui est vraiment très bien vu sur le livre. C'est un excellent résumé, peut-être l'un des meilleurs que j'ai lu sur le livre. Mais c'est un des aspects que j'aurais aimé développer. Ça me permet d'expliquer dans quelles circonstances j'ai écrit ce livre. Parce que parfois, on se demande comment est-ce qu'on trouve le temps d'écrire ce genre de livre. Moi, ça fait des années et des années que je regarde Klaus Kleiber, que je l'écoute, que lorsque je vais à Berlin, j'essaie de trouver des éléments sur lui. Et puis, j'ai trouvé qu'un jour, sous une tête de cet épisode, le président de la République avait envisagé de me nommer à Bercy. Donc, j'avais éliminé toutes mes vacances d'été. Puis finalement, il a fait un autre choix et je suis resté ministre de l'Agriculture. Donc, je me suis dit, je vais aller supprimer mes vacances, je vais quand même prendre 3 semaines de vacances, et pendant ces 3 semaines de vacances, j'ai écrit le livre sur Klaus Kleiber. Mais je n'ai pas pu mettre tout ce que j'aurais voulu mettre, et je n'ai pas pu fouiller certains aspects. Cet aspect de l'élégance de Kleiber, son attractivité physique, est un élément clé du personnage. Quand vous regardez les DVD où il dirige l'orchestre symphonique de Stuttgart, ce qui est fascinant, c'est que vous avez un orchestre dans lequel tous les musiciens font ultra années 70, ils font un peu daté, ils ont des lunettes qui sont un peu ringardes, ils ont des costumes façon Allemagne des années 70, hein, c'est quand même pas folichon, et vous avez Kleiber qui, lui, mais perce véritablement l'écran. C'est un acteur de cinéma. Il est avec son t-shirt noir, il a des gestes très amples, il crève l'écran, véritablement il crève l'écran. Et c'est pour ça que j'ai voulu que le violoniste soit un violoniste homosexuel, parce qu'il y a une part effectivement de relation amoureuse dans la façon dont il se laisse diriger par ce chef et dont il est fasciné par l'élégance et par le physique de ce chef. Et une des choses qui m'a le plus touché, là je le raconte à vous, je ne l'ai pas encore raconté, mais un grand chef qui est Ricardo Muti, qui a très bien connu Carlos Kleiber, à qui j'ai envoyé le livre, m'a dit qu'il avait trouvé le livre absolument formidable. Il m'a dit, il y a juste un reproche que j'ai à vous faire. Vous n'avez pas assez parlé des relations de Kleiber avec les femmes. Ce qui est effectivement un des aspects du livre qui manque, je le reconnais. Kleiber était un immense séducteur.
Vous le dites quand même.
Ou qu'il allait, il avait à chaque fois des femmes qui tombaient en pamoison devant lui. Il n'empêche que ça n'a été que l'homme d'une seule femme, sa femme Stanka, qui l'a accompagné pendant toute sa vie, qui était d'origine slovène, comme je vous le disais, mais c'était un immense séducteur et un homme pour lequel les femmes avaient le regard de chimène.
La fin, justement, de cet immense séducteur, la fin qui suit la mort de sa femme, elle est épouvantable. Il se promène en robe de chambre et en pantoufles dans les rues de Vienne ou de... C'est à Vienne ?
Salzbourg.
De Salzbourg à Salzbourg. C'est une déchéance totale.
C'est un homme qui a été tenue au sens où un tuteur tient une plante contre sa dépression, contre ses fragilités par deux femmes, sa mère et sa femme Stanka. Sa mère était la seule lorsqu'il refusait de diriger. Il y a le directeur du Covent Garden qui raconte ça. Un jour, Klaus Kleiber vient diriger à Covent Garden. Il y a des milliers de personnes qui attendent Klaus Kleiber, qui ont réservé depuis 6 mois leur place, qui ont payé une fortune. Et Klaus Kleiber est dans sa loge et dit « Je n'irai pas jouer. Ce soir, je ne peux pas jouer. » Et tout le monde y va, les musiciens, le directeur du Covent Garden, toque à sa porte, dit « Mais Klaus Kleiber, il faut que vous allez diriger. Il y a des milliers de personnes qui vous attendent. » Il dit « Non, je n'irai pas. » Et puis, sa mère, qui est encore vivante à cette époque, va toquer à la porte de sa loge et dit « Carlos, si ton père Erich avait ça, il ne serait pas content. » Et Klaus Kleiber va diriger. Donc il y a sa mère et sa femme sa Stanka, femme. Qui est totalement en retrait, qui accepte probablement beaucoup de liberté de sa part, mais qui est la femme qu'il a aimée tout au long de sa vie. Et c'est vrai que le jour où elle meurt, lui se laisse mourir. Il se laisse tout simplement mourir, c'est une déchéance physique. Il refuse de prendre qui que ce soit au téléphone ou presque. Il refuse de répondre aux lettres et il meurt 2 ans plus tard, très rapidement, à la suite de sa femme, dans une solitude totale.
Il y a les jours où Carlos Kleiber ne veut pas diriger. Il y a les jours où c'est l'orchestre qui n'en peut plus. Alors, vous racontez une anecdote, mais vous dites un grand orchestre européen. Là, vous êtes très discret.
C'est la Philharmonie de Berlin, pour être très clair.
Ah, bon, oui, on devine que c'est la Philharmonie de Berlin. Il est tellement exigeant que tout d'un coup, à la fin, il y a un musicien qui se lève et qui dit « Écoutez, maître, on ne comprend pas ce que vous voulez, et puis on n'y arrive pas de toute façon. » Et alors, bon, ben, il n'y a plus de concert.
Ce qui est intéressant, hein. Parce qu'effectivement, diriger avec lui est très difficile. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans le fond, il a donné ses meilleurs enregistrements avec des très grands orchestres, mais qui ne sont pas les plus grands orchestres mondiaux. La Philharmonie de Berlin, il a donné de très bons orchestres, Concertgebouw. La Philharmonie de Vienne, il a donné de très bons concerts aussi avec eux. Mais ses plus beaux concerts sont probablement ceux qu'il a donnés avec Stuttgart et avec Munich, avec des orchestres qui sont de très grands orchestres, mais pas de tout premier plan. Pour une raison qui est, à mon avis, assez simple, j'ai interrogé beaucoup de chefs d'orchestre, y compris des musiciens d'orchestre. Des orchestres comme la Philharmonie de Berlin ou la Philharmonie de Vienne sont des sociétés. Ce n'est pas des orchestres, ça s'appelle des Gesellschaft, des sociétés. Donc ils sont entre eux, c'est une société, ils se cooptent, il y a très peu de femmes, hein. Les femmes sont entrées à la Philharmonie de Vienne il y a seulement quelques années, et ils estiment qu'ils connaissent le répertoire par cœur, et que le chef il est tout juste là pour faire un peu décoration. Ils acceptent évidemment la direction, mais à la marge. Et la Philharmonie de Berlin, quand elle a vu arriver Kleiber et que Kleiber leur demandait des trucs qu'ils n'avaient jamais fait, il y a un moment, pour faire simple, ça a clashé. Et l'orchestre philharmonique de Berlin a dit bah, « Écoutez, désolé, on ne peut pas continuer la répétition. Nous, on connaît cette œuvre-là. Vous voulez autre chose, bon, on s'arrête là. » Et du coup, Kleiber a refusé ensuite catégoriquement et d'être chef à vie de la Philharmonie de Berlin et de diriger avec cet orchestre-là.
Nikolaus, le violoniste, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il avait un point de vue sur les Français qui n'est pas tout à fait flatteur pour nous. À un certain moment, il dit ceci aux journalistes. « Je connais suffisamment les Allemands pour vous dire que leur conscience politique, si vous me permettez ce mot, ne vous accorde plus le moindre droit sur eux. Ils ne veulent plus que vous vous mêliez de leurs affaires. Point final. Vous dites l'Europe. Quelle Europe ? Votre Europe est une excuse pour conserver votre part de gâteau. Plus personne ne se laissera prendre à votre truc, y compris les Allemands. Comprenez, une fois pour toutes, que les Allemands sont à la fois puissants et provinciaux, provinciaux et puissants. Quand cela les arrange, ils se replient sur eux et impossible de leur faire prendre la mesure de leur responsabilité. Le lendemain, ils prennent 2 ou 3 décisions économiques qui écrasent leurs voisins. En toute bonne conscience. Et vous qui réclamez de leur part un sens universel, une vision du monde. » C'est le violoniste qui parle, là, ou
c'est les deux. Je ne répondrai pas à cette dernière question. C'est un point évidemment important du livre, c'est cette relation entre la France et l'Allemagne. C'est une façon aussi de renvoyer un peu les Français dans leur but, qui croient toujours savoir tout sur tout. Et en matière musicale, moi, j'estime qu'ils ont beaucoup à apprendre des Allemands, des Autrichiens, du monde germanique de manière générale. Puis c'est une façon aussi de lancer un peu un signal d'alerte aux Français en disant oui, votre vision de l'Europe ne s'imposera pas. Faisons attention à savoir écouter aussi nos voisins, respecter aussi nos voisins qui ont leur opinion, qui ont leur façon de voir les choses. Puis un peu d'ironie aussi sur cette Allemagne contemporaine qui a retrouvé sa puissance. Quand je dis qu'elle est à la fois provinciale et puissante, puissante et provinciale, c'est une très lointaine allusion à l'homme sans qualité de Musil. Vous savez qu'il commence par ce texte absolument magnifique de description de l'Autriche où il dit l'Autriche est à la fois kaiserlich und königlich, königlich und kaiserlich. Elle est monarchique et impériale, impériale et monarchique. L'Allemagne d'aujourd'hui est à la fois puissante et provinciale, provinciale et puissante. Et il faut que les Français le comprennent s'ils veulent garder de bonnes relations avec ce pays.
Le père du musicien qui a reçu ce... Ce n'est pas une décoration, c'est un signe, n'est-ce pas, où il y a, redites la formule...
K und K, kaiserlich und königlich.
Voilà. Il dit en gros... La France va connaître ce qu'a connu l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire qu'elle va disparaître.
Oui, parce que c'est une question, enfin, alors je vais signer vos lits, sinon je n'aurai pas le temps de le faire.
On
mais c'est une
là.
Question que je trouve extrêmement intéressante, qui est celle de la chute des empires, pas les empires grecs ou romains qui remontent à très loin, mais la chute des empires contemporains. Quand vous allez en Autriche, il y a encore cette imprégnation d'un pays qui, il y a un peu plus de 100 ans, était le plus grand empire européen et qui aujourd'hui est un petit pays de 8 millions d'habitants. Ça pose une question, et pour un pays comme la France, qui a toujours une vocation universelle, à laquelle moi je crois profondément, et qui garde cette vocation universelle, elle ne se garde pas toute seule, elle se garde en se battant, sinon elle disparaît.
Merci Bruno Le Maire, et vous allez pouvoir signer quelques livres.